Shabbat, c'est le nouvel an. Quel nouvel an? Des arbres, Tu Bishvat. Tu Bishvat, Tu, c'est en hébreu 15. On compte les lettres, on compte en chiffres. On exprime les chiffres avec des lettres. Tu, c'est 15. Bishvat, dans le mois de Shvat. On a 4 nouvel ans par année, c'est bien. Pas la fête une fois par année, on peut le faire 4 fois. Bien que beaucoup de ces nouvel ans, on ne fait pas la fête du tout, au contraire. Premier nouvel an, ça va être le Rosh Chodesh Nissan, le premier du mois de Nissan. Nissan, c'est donc au mois de fin mars, début avril, c'est le nouvel an des rois. À l'époque, le calendrier était défini par à la naissance de... du faux Messie il y a 2000 ans, mais par rapport au roi. Nous sommes, tu faisais un contrat par exemple, alors tu mettais la date, tu mettais la troisième année du roi Théodore, deuxième année du roi Ptolémée, d'accord. Chacun t'avait comme ça, d'après les rois. Alors, les rois, c'est quand qu'ils deviennent rois? Pas tous les rois sont commencés à commencer leur royauté le premier Nissan, c'est très rare. D'habitude, ils assassinaient le roi qui avait avant, ils se mettaient à leur place, quand ça les arrangeait bien. Alors, mais vu que c'est très compliqué de toujours savoir quel roi était à quelle date, alors, chaque fois qu'on a le premier Nissan qui arrive, une année révolue. Même si deux jours auparavant, il a assassiné son frère et s'est mis à sa place, dès le premier Nissan, on considère qu'on est déjà dans la deuxième année de ce roi. C'est aussi le Rosh Hashanah des fêtes. Les fêtes, le cycle des fêtes, d'après la Torah, commence à Nissan. T'as Pessah, Shavuot, après Rosh Hashanah Kippour et Sukkot. Ce cycle commence à Rosh Hashanah, comme c'est marqué dans la Torah, Achol Chazeh, ce mois-ci est le premier des mois de l'année. Comme c'est marqué clairement, donc avant qu'on sorte d'Égypte, Dieu, c'est la première mitzvah que le peuple juif a entendu en Égypte, de la part de Moshe, que ce mois est le premier des mois de l'année, le mitzvah de sanctifier le premier du mois. Ensuite, on a au mois de Elul, le premier du mois de Elul, c'est le Rosh Hashanah du Maaser Be'ema. À l'époque où le temple existait, un dixième des animaux était sanctifié, c'était le maaser, le korban maaser, sacrifice maaser qu'on devait sacrifier au temple. Comment est-ce qu'on définissait quel animal était saint ou pas saint? On mettait tout le troupeau dans un enclos, on ouvrait une petite porte et il passait. Et chaque fois qu'on comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le dixième avec un pinceau rouge, tac, on mettait un coup de pinceau rouge sur sa laine et il devenait sanctifié, il est carrément une sainteté. Et on devait le sacrifier et le manger à Jérusalem. Aujourd'hui, quand on n'a plus le temple, donc cette mitzvah n'existe plus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a Rosh Hashanah, on a un nouvel an de cela? On ne peut pas prendre des animaux qui sont nés cette année avec des animaux qui sont nés l'année passée et donner la dîme sur ces deux types d'animaux. Chaque année, on donne la dîme pour les animaux qui sont nés cette année. Alors, c'est quoi cette année? De quand à quand on va une année? Du premier Elul jusqu'au premier Elul. Tous les nouveaux-nés d'une année, d'un premier Elul jusqu'à un premier Elul, tous font un groupe, on les met dans l'enclos, et sur ce troupeau-là, on fera la dîme. Dès qu'on aura un nouveau premier Elul qui est passé, ça, on prendra tous les nouveaux-nés de la prochaine année, et on fera la dîme sur eux. Troisième nouvel an que nous avons, c'est Rosh Hashanah. C'est le nouvel an de Dieu. C'est-à-dire Dieu va juger son monde, l'humanité. Plus Rosh Hashanah des Yovelot et des Shemitot. Yovel, c'est jubilé, inactuel à l'époque, seulement lorsque le peuple d'Israël était entièrement sous sa terre, il y avait le jubilé, 50e année, où toutes les terres reviennent à leur possesseur initial, propriétaire initial, les esclaves, à l'époque il y avait l'esclavage, contrairement au Goïm, dans le peuple juif, un esclave, il est esclave maximum 6 ans, si après 6 ans il dit qu'il veut rester chez son maître, alors il peut rester, mais pas plus que le jubilé. Qui veuille ou qui veuille pas, après 50 ans, et des fois ça peut être beaucoup moins, si 8 ans avant l'apparition du jubilé, il a été vendu en esclavage, 6 ans après, il doit quitter, il ne veut pas quitter après 6 ans, ben, il ne reste plus que 2 ans. Parce qu'il a été acheté 8 ans avant le jubilé. Vient l'année du jubilé, qui veuille, qui veut pas, on le renvoie avec un coup de pied, on lui donne même un cadeau, d'accord, les esclaves qui finissaient leur service esclavagique recevaient un grand cadeau. Et ils rentraient chez eux à la maison. Donc une libération, c'est vraiment, tout revient à l'état initial. C'était le jubilé, c'est une année extrêmement sainte. On sonnait du shofar, comme à Rosh Hashanah, le jour de Kippour. Le jour de Kippour, parce que nous on sonne du shofar Kippour quand à la sortie de Kippour, on n'a pas le droit de sonner du shofar à Kippour. Que l'année jubilée, alors on sonnait quand même Kippour, une grande mitzvah de la Torah, du son du jubilé, que c'est un grand jour. Aujourd'hui, on n'a plus cette mitzvah-là. Par contre, on a une deuxième mitzvah. Dans le nouvel an aussi a lieu Rosh Hashanah, donc le premier du mois de Tishri, c'est la lune de Jachère, la Shvi'it, qu'on appelle Shvi'it ou Shmita, la septième année, qui aura lieu, et merci à Hachem, cette année, donc Rosh Hashanah, donc au mois de septembre 2007, nous rentrons dans la sainteté de la septième année en Israël. Toute la terre devient sainte, on n'a pas le droit d'exporter les fruits sont saints, on doit les manger avec après le Ramban, on fait une mitzvah de manger ces fruits-là parce qu'ils sont saints, on n'a pas le droit de les gâcher. On n'a pas le droit de faire du business avec, du commerce, on n'a pas le droit d'avoir sa propriété, chacun peut rentrer dans son champ, prendre les fruits qu'il veut, il n'y a aucun problème. Et à la fin, on doit aussi se débarrasser, à un certain moment, une certaine date, où on doit se débarrasser de ces fruits-là, on doit ou les brûler, ou les avoir mangés. Il y en a qui ont la coutume aussi de se désapproprier. Ils se désapproprient, et que celui qui vient, il les prend, et lui aussi peut les reprendre aussi. Bon, on parlera, on s'appelle le biour, on en parlera en temps et en lieu avant la septième année qui viendra, il me sera la chaîne, bientôt. Quand commence cette septième année? Elle commence le Rosh Hashanah de Tishri. C'est le premier mois du Tishri, donc Rosh Hashanah qui est connu donc au mois de septembre. Le dernier qui nous concerne, oui.
Quand on parle de Shalim, et à la fin on dit juste que ce soit que les récoltes, etc., soient venues jusqu'à la fin de l'année, on parle de Rosh Hashanah.
On parle de...
On parle de quelle fin d'année? On dit jusqu'à la fin de l'année, mais on parle de quelle fin d'année?
Ouais. Alors, il semble qu'on parle de l'année de Rosh Hashanah qui commence le premier Tishri. Parce que l'essentiel des fruits, d'accord, la récolte, l'essentiel sera en été. Le blé, principalement, ça en été. Donc, on prie toute l'année qu'il y a beaucoup de pluie pour que le résultat, il est quand? Au printemps, ça commence à pousser. En été, on récolte, et on laisse sécher tout l'été, et à la fin de l'été, on rentre ça dans ses greniers. Et on remercie Akadosh Baruch Hu de la bonne année qu'on a eue. Donc on prie pour l'année qui commence en fait au mois de Tishri. Dernier Rosh Hashanah qui nous concerne, parce que c'est dans 3 jours, Tu Bishvat, le 15 du mois de Shvat. Qu'est-ce que c'est? Rosh Hashanah la Ilanot, le Rosh Hashanah des arbres. Alors pourquoi des arbres? Tout simplement pour une question technique qu'il faut apprendre, c'est l'occasion d'apprendre un peu sur la terre d'Israël. Il y a beaucoup de mitzvot qui concernent la terre d'Israël. Une pomme moyenne en terre d'Israël, elle a presque une dizaine de lois qui la concernent et qui ne concernent pas une pomme qui est née à l'étranger, qui a poussé à l'étranger. D'abord, interdiction qu'elle soit orla. Orla, ça veut dire que les 3 premières années d'un fruit, interdiction de les manger, interdiction grave, plus que le porc. Un morceau de porc qui était mélangé à 60, un kilo de porc qui est mélangé à 60 kilos de viande cachère, et tout cela a été moulu ensemble, on peut le manger. On n'a pas le droit de le faire, de mélanger. On n'a pas le droit de mettre le kilo de porc dedans. J'avais que 60 kilos, je remets 61 kilos avec un petit goût de porc. Ça, c'est interdit. Mais si déjà maintenant c'est tombé, le morceau, on ne sait plus où il est, c'est permis. Alors là, il faut qu'il y ait 200 parties. Un kilo de orla qui est tombé, il faut qu'il y ait 200 parties de fruits cachères pour qu'on annule cela. C'est beaucoup plus grave. Le porc, on a le droit d'en profiter. Je peux cirer mes chaussures avec de la graisse de porc. C'est permis. Je n'ai pas le droit de peindre, par exemple, mon appartement avec une couleur qui est faite à partir d'écorce de fruits de orla. C'est à Surbana, c'est interdit de profit. C'est un interdit extrêmement grave. La orla, il faut savoir en Israël. Faire attention qu'on doit faire son marché innocemment ici en Israël. Il y a des fruits dont le taux de orla est élevé sur le marché. Il faut aller prendre tous les mois l'Institut de l'agriculture de la Halakha, nous donne le taux de pourcentage de orla qu'il y a sur le marché. Si ce n'est pas 5%, on ne doit pas le prendre. On doit faire attention. Ou de prendre des fruits avec un hersher, que là-bas, l'autorité rabbinique compétente qui s'occupe de donner le hersher le droit de manger, lui va dans les champs vérifier qu'effectivement, ces arbres-là ne sont pas des arbres qui ont été plantés les 3 dernières années.
Voilà, c'est qu'ils soient plantés. C'est pas seulement qu'on ait mis la graine et qu'on attend 3 ans. C'est que même si l'arbre il a 10 ans mais qu'on le replante ailleurs, il faut attendre encore 3 ans.
Oui, effectivement. Si maintenant il y a une greffe, alors il faudra de nouveau compter 3 ans. Ou comme ça se passe aujourd'hui, le grand problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que d'habitude, l'arbre, pendant 1 à 2 ans, il se trouve dans un petit pot, dans la machtela, Les Serbes, dans un endroit où ils font pousser des. Ils font, c'est un, je sais pas comment on appelle ça en français, d'accord, une usine de plants d'arbres. Et après, ils prennent les petits pots et les envoient dans différentes régions du pays, chez les agriculteurs, qui vont qui les planter. Quand ils plantent ces petits pots, alors les 2 ans de vie de petits pots, ils comptent pour rien du tout. Il faut recommencer les 3 ans. À partir de zéro. Et c'est un gros problème, donc ça demande aussi une très grande armada de rabbinis qui vont sur place vérifier qui, quoi, comment, etc. C'est très compliqué. Quoi qu'il en soit, ici en Israël, c'est interdit, donc il faut faire attention à cela. C'est vrai que c'est aussi interdit à l'étranger, mais un peu moins, ça veut dire on descend d'un cran. À l'étranger, si on est certain que l'arbre duquel vient ce fruit, il est hors là, interdiction de manger. Mais si on a un doute, j'ai M. Martin Dupont, c'est mon voisin, il a 2 poiriers. Un qu'il a planté depuis 10 ans, un qu'il a planté depuis 2 ans. Et il a même une poire de son poirier. Je peux le manger, parce que j'ai un doute. Ou c'est un de là, ou c'est un de là. Ça fait que des rabananes, les coula. On peut faire comme ça. Mais si je sais qu'il a un seul poirier qui a été planté depuis 2 ans, ou qu'il a greffé depuis 2 ans, donc ce fruit-là est hors là, il a interdit aussi à l'étranger des rabananes. Donc en gros, je peux aller au marché, prendre ce que je veux, parce que c'est certain qu'il y a un doute. Mais quand je sais pertinemment, moi-même, j'ai planté maintenant mon poirier dans mon champ, et je sais qu'il a moins de 3 ans, donc je n'aurai pas le droit de consommer. Maintenant, ces années de hors-là, quand est-ce qu'on considère qu'un fruit, il a 3 ans? Est-ce que c'est du moment que je l'ai planté le 1er janvier, donc dans 3 ans, le 1er janvier, le fruit sera permis, auparavant pas? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si je l'ai planté le 1er janvier, je compte jusqu'à Tu Bishvat. Tu Bishvat vient, donc on est au mois de février, c'est considéré déjà comme une année qui est passée. Tu Bishvat, c'est le nouvel an des arbres. Lorsque cette date arrive, tous les fruits qui sont déjà, tous les arbres qui ont été déjà enracinés dans la terre, si je prends une graine et je l'enracine 2 jours avant Tu Bishvat, c'est pas considéré comme une année passée parce qu'il n'a pas le temps d'être enraciné. Il a été que planté, il n'a pas encore fait des racines. Ça prend, je me souviens plus très bien, je crois que ça prend environ 2 semaines le temps que le fruit soit enraciné. Donc si j'ai planté mon arbre, il a eu le temps de s'enraciner, c'est-à-dire 2 semaines avant Tu Bishvat, quand vient Tu Bishvat, il aura déjà l'âge de 1 an. Et au contraire, si je l'ai planté et que après Tu Bishvat, alors il faudra attendre une année entière pour que 1 an soit considéré comme effectif. Donc il faut passer 3 Tu Bishvat pour que le fruit quitte son statut de Orla. Après quoi, il n'est pas encore permis, il devient Revaï. Revaï, qu'est-ce que Revaï? Ça vient du mot Arba, Reva, d'accord? Arba signifie 4e année. Qu'est-ce qui se passe avec un fruit de la 4e année? Il est interdit à la consommation tant qu'on ne l'a pas racheté. Il a de la sainteté. On doit dire toute la sainteté de Revaï qu'il y a dans mon fruit, qu'elle passe dans une pièce, et cette pièce devient sainte. Qu'est-ce qu'on en fait rapidement? C'est comme le maaser. La veille de Pessah de la 7e année et la veille de Pessah de la 4e année, tous les religieux prennent leur pièce et vont les jeter à la mer. Pardon? Non, alors qu'est-ce qu'on fait quand on a plusieurs pièces? On peut faire passer la sainteté de plusieurs pièces sur une pièce aussi. Chacun va passer sur une pièce. La fin, c'est toujours une seule pièce. Même pas, c'est même pas une pièce, c'est une prouta dans la pièce. Tu dis que toute la sainteté, maintenant, tu as plusieurs tonnes de pommes qui sont réveillées, toute la sainteté de réveil qui est là-dedans, qu'elle passe dans une prouta, la valeur d'une prouta, c'est environ 1 centième d'euro. Exactement, c'est combien une prouta? La valeur d'une prouta, c'est la valeur d'un 1/40 d'un gramme d'argent pur à la bourse. Tu appelles la bourse, combien coûte 1 gramme d'argent, tu divises par 40, ça c'est la valeur d'une prouta. Donc tu fais passer toutes les 40 quinto tonnes de pommes que tu as, qui sont réveil, qui sont 4e année, qui sont saintes, toute la sainteté de réveil qu'elle passe maintenant dans la valeur d'une prouta dans cette pièce, et cette pièce devient sainte dans la valeur d'une prouta. À l'époque, il prenait tous ces fruits-là et allait les manger à Yerushalayim, en sainteté. S'ils avaient beaucoup de fruits, ils ne pouvaient pas les prendre, alors ils faisaient passer toute la valeur de ces fruits sur des pièces, mais de la valeur correspondante de ces fruits, et aller à Jérusalem, là-bas, racheter des fruits ou de la nourriture, et manger cette nourriture-là en sainteté de réveil. Ensuite, après 4 années fourbues, d'accord, on a eu 4 fois tous les choix qui sont passés, le fruit, on peut enfin le manger, mais il reste encore toute une collection de mitzvot qui concernent cette malheureuse pomme qu'on veut manger, cette heureuse pomme qu'on veut manger. Donc il faut donner une partie au Kohen. Combien? Une partie, peu importe. Ça, c'est de la Torah. Rabbanan, on dit, donner un cinquantième. Ça, c'est le type qui est l'œil moyen. Œil, ça veut dire, est-ce qu'il est avare ou généreux? Moyen, il donne un cinquantième, donc 2%. S'il est avare, il donne un soixantième. S'il est généreux, il donne un quarantième. Au Kohen, on appelle ça Trouma Gdola. On donne ça au Kohen. Aujourd'hui, on ne peut pas donner au Kohen, mais on le prélève et on le mettra dans un plastique entouré de deux plastiques, on mettra à la poubelle, ou le mieux c'est de le brûler. Ensuite de quoi, on donne un dixième au Lévi. Et ça pour les Sfaradim, Ashkenazim ne le donne pas au Lévi, mais il le retire. Nous on le donne carrément au Lévi. On donne un dixième au Lévi. Moi j'ai un cousin qui est Lévi, il habite deux étages au-dessous de moi. Chaque fois que j'ai un petit morceau de tomate ou de pomme, tac, tiens, voilà, on va lui donner maintenant le Maaser Rishon. C'est un dixième de la récolte. Le Lévi donnera un dixième de son dixième. On appelle ça Tumat Maaser ou Maaser Mena Maaser. Au Kohen. Et là, ça sera sain de nouveau deux plastiques à la poubelle ou brûlé. Donc, dixième Maaser Mena Maaser, c'est dixième du dixième. Le Lévi a reçu un dixième de son dixième, il le donne. Ça fait combien du tout? Un centième du tout qu'on donne au Kohen. Le Lévi donne au Kohen. Ensuite de quoi? Nous avons encore deux sortes de dîmes. Et là va arriver le. Va arriver la loi importante qui concerne Toubishvat aussi. C'est ça le Maaser. Maaser, c'est la dîme. Il y a un Maaser Ani, la dîme qu'on donne aux pauvres. Il faut donner 10% aux pauvres. Et la dîme qu'on donne, qui s'appelle Maaser Sheni, deuxième dîme. C'est quoi deuxième dîme? Comme la loi du réveil qu'on a vu auparavant, les fruits sont sains et on doit, donc un dixième de la récolte, cette dîme, ce Maaser Sheni, comme on l'appelle, il est sain, on doit le monter à l'époque à Jérusalem, le manger dans les enceintes de la ville de Jérusalem, en sainteté. On doit être pur nous-mêmes, sain, on peut manger cela. Aujourd'hui que nous ne sommes pas en état de pureté, on ne peut pas manger ces fruits-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer leur sainteté sur la pièce, comme avec le réveil. On dit toute la sainteté de Maaser Sheni qu'il y a dans ces fruits-là, qu'elle passe dans la valeur d'une prouta, dans la pièce que j'ai spécifiée pour la profanation, pour le passage de la sainteté de Maaser Sheni et de réveil. Et comme je dis, la veille de la quatrième année, la veille de la septième année à Pessah, la veille de Pessah, la quatrième et septième année, on jette ces pièces dans la mer. Maintenant, je dis qu'il y avait deux dîmes, n'est-ce pas? Maaser Sheni, Maaser Ani. La dîme deuxième, qu'on mange dans sa totale à Jérusalem, la dîme du pauvre. Comment et quand? Alors ça dépend des années du cycle. On a un cycle de sept années. Sept années. Sept. S-E-P-T. La septième année va commencer maintenant en septembre 2007. Nous sommes maintenant en sixième année. Alors, dans ce cycle des années, première, deuxième, quatrième, cinquième année, c'est quatre années. Un, deux, quatre, cinq, on donne le Maaser Sheni, deuxième dîme. Et il n'y a pas de Maaser Ani. Il n'y a pas de dîme aux pauvres. Les années 3, 6, il n'y a que Maaser Ani, il n'y a pas Maaser Sheni. Septième année, c'est tout, Hefker, tout désapproprié, chacun va, il fait ce qu'il veut. Il le prend, les pauvres, les riches, tous sont la même enseigne, et ils se nourrissent de ce qu'ils peuvent rentrer de n'importe quel champ, et prendre ce qu'ils veulent manger pour leur consommation propre. La troisième, sixième année, il a dîme des pauvres. Donc maintenant, si j'ai des fruits qui sont de la cinquième année, et des fruits de la sixième année, je ne donnerai pas la même dîme. Cinquième année, je donnerai la deuxième dîme. Sixième année, je donnerai la dîme des pauvres. Ce n'est pas la même. Qui va maintenant me donner le critère? C'est quoi la cinquième année, c'est quoi la sixième année? Toubishvat. On y est. Comment Toubishvat? Si ces fruits-là ont eu leur chanata, c'est quoi chanata? C'est le bourgeonnement. Quand le fruit commence à sortir. D'abord, il y a la fleur, après elle tombe, après il y a le fruit qui sort. On appelle ça la chanata. Ça dépend des fruits. Il y en a que c'est quand ça sort, il y en a qui disent que c'est un tiers de la récolte, en disent encore d'autres. La Mishnah là-bas, elle va dire, pour chaque fruit, grosso modo, c'est quand qu'on appelle le bourgeonnement la chanata. Si la chanata, le bourgeonnement, a eu lieu avant Toubishvat, c'est l'année d'avant. Le bourgeonnement a lieu après Toubishvat, c'est l'année d'après. Par exemple, maintenant il y a encore des raisins sur le marché. Vient Toubishvat. Ces raisins-là maintenant, ils sont de là, on va dire maintenant nous sommes en sixième année, est-ce qu'ils sont maintenant de là? Compliqué de vous expliquer ça. Ils sont encore la cinquième année. Est-ce qu'ils sont de la cinquième année ou de la sixième année? Ben, ce Toubishvat, on doit regarder. Est-ce que ces fruits-là, maintenant, leur hanata, les fruits, maintenant, ils sont déjà sur le marché, ils sont mûrs, mais leur bourgeonnement, il a eu lieu. Le bourgeonnement de la vigne, ça a lieu vers, au mois de juin, au mois de juillet, en plein été. Quand c'est le plein été, maintenant, c'était quoi? C'était la cinquième ou sixième année? C'était la cinquième année. Au niveau des arbres, nous sommes maintenant en cinquième année. Vient Tu Bishvat, on rentre en sixième année. Vu que le bourgeonnement a lieu en cinquième année, donc ces vignes-là, on fera le Maaser Sheni. La vigne qui va bourgeonner cet été, ce sera déjà la sixième année, donc février prochain, ou au mois de décembre prochain, j'ai de la belle vigne maintenant, cette vigne, vu qu'elle a bourgeonné cet été, qui va venir, donc ça, après tout Bishvat de maintenant, de ce mois de février maintenant, donc ils font partie de la sixième année, donc on aura le Maaser Ani. Pour compliquer les choses, pardon? Alors, comment ça se fait? Alors, même pour la Shemitah, septième année, c'est quand que commence la Shemitah des arbres, lorsqu'il y aura un bourgeonnement qui aura lieu dans la septième année. C'est quand la septième année pour les arbres commence quand? Tu Bishvat l'année prochaine. Bien que la septième année commence normalement à Rosh Hashanah, pour les arbres, c'est quoi un arbre? C'est un tronc qui reste d'année en année et qui donne des fruits. D'accord? Contrairement aux patates, contrairement aux carottes, contrairement aux céréales, au blé, etc., qui eux poussent et disparaissent. La banane, effectivement, elle est considérée comme un légume. Elle n'est pas considérée comme un arbre parce que tout l'arbre disparaît. D'autres aussi, aubergine, papaya, les fraises, ça dépend. Il y a beaucoup de discussions qui, quoi, comment. Ok? En gros, il y a les fruits de l'arbre et les fruits de la terre. Les fruits de l'arbre, le Rosh Hashanah, l'année 7 de sainteté, ou l'année 6-5 pour le Maaser, si on fait Maaser Ani ou Maaser Sheni, aura lieu à Tu Bishvat. C'est-à-dire que c'est leur nouvelle année. C'est quoi leur nouvelle année? C'est pas qu'ils existent ou pas. Est-ce que la Hanata de ces fruits-là, le bourgeonnement, a lieu avant ou après le Tu Bishvat? Suis-je clair ou c'est un peu trop compliqué?
Après
Tu Bishvat.
De la Shemitah.
La Shemitah. Donc le Tu Bishvat de la Shemitah, ça sera l'année prochaine. L'année prochaine, on sera le Tu Bishvat, le nouvel an, la septième année. Plus Maaser, terminé. Mais alors, pour compliquer un peu, le Maaser, donc il y a une différence entre 5e et 6e année, comme j'ai dit, Maaser année, Maaser sheni, Maaser ani. Ça, c'est pour les fruits de l'arbre. Mais les légumes aussi, les fruits de la terre aussi, ils ont un Maaser. Ils ont aussi un Maaser. Je vais prendre maintenant une patate qui a poussé en Israël, ou du blé. Il faut donner la dîme. La dîme, 1, 2, 4, 5e année, il faut donner sheni. 3 et 6, il faut donner Maaser ani. Quel sera le critère maintenant? Si je donne Maaser Ani, Maaser Sheni, c'est quand le nouvel an? Le nouvel an pour les légumes, pour tout ce qui pousse, et les céréales, ce qui pousse de la terre, ça sera Rosh Hashanah du premier Tishrei. Premier Tishrei. D'après quoi? Le bourgeonnement, il n'y a pas un bourgeonnement de céréales, il n'y a pas un bourgeonnement de patates, d'après la récolte. Lorsque je récolte les légumes, si j'ai récolté ça avant Rosh Hashanah, prenons un exemple. Cette année maintenant, voilà, moi je plante maintenant des radis. Je suis en été 2007. Je plante mes radis. Après un ou deux mois, mes radis sont beaux, grands, rouges, délicieux. Nous sommes maintenant la veille de Rosh Hashanah. Je prends mes radis. Je dois donner le Maaser Ani. Parce que vu que ces radis ont été récoltés la sixième année, donc sur eux revient Maaser Ani. Si je les récoltais après Rosh Hashanah, ça déjà, c'est en septième année, ce sont des radis sains de septième année. Si on prend ça maintenant à l'envers, le Rosh Hashanah de cette année, c'est-à-dire le mois de septembre 2006, si j'ai récolté mes radis avant Rosh Hashanah, ils font partie de la cinquième année, donc on donnera le Maaser Sheni. Si j'ai récolté après Rosh Hashanah, on donnera le Maaser Ani, sixième année. Ce qui concerne les fruits de la terre. Tu Bishvat ne concerne que les fruits de l'arbre. Il nous reste un petit quart d'heure. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que Rosh Hashanah, je vais expliquer pourquoi un peu à Tu Bishvat, on mange des fruits. Parce que, où est le rapport? Rosh Hashanah, ce Maaser, Sheni, Ani, ok. Alors, vu que pourquoi est-ce qu'a été définie la date du 15 du mois de Shvat, Tu Bishvat, comme le Rosh Hashanah des fruits de l'arbre? Parce qu'à cette époque-là, la majorité des pluies de l'hiver sont déjà tombées. Et la terre, elle est déjà riche, et c'est marqué que la sève maintenant, il y a une nouvelle sève qui monte dans les fruits, dans les arbres, qui vont donner les fruits de cette année. C'est-à-dire que au niveau de la... la conception, le début du bourgeonnement et de la poussée des fruits de l'année qui va venir, commence dès Tu Bishvat, en Israël. C'est pour cela que nous allons manger des fruits spécialement de la terre d'Israël. Il y a 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie, 2 fruits de la terre plus 5 de l'arbre, qui sont Chita et Seora, blé, orge, Gefen, Tena, Verimon, vigne, figue, grenade, zet, chamène ou de vache, olive et date. Il y a un verset de la Torah qui vante, qui loue la terre d'Israël par ces 7 fruits. Ce sont des fruits qui sont des fruits par lesquels la terre d'Israël a été louée. Donc c'est bien de manger toutes sortes de fruits. Demain, Rabbi Barjé vous fera un petit cours sur Tu Bishvat, plus au niveau conceptuel. Il y a des sortes de fruits qui ont 3 sortes de fruits, des fruits qui ont des graines, il y en a qui n'ont pas de graines, il y en a qui ont une écorce, il y en a qui n'ont pas d'écorce, il y en a qui ont les deux à la fois. Chaque chose correspond à d'autres choses. Néanmoins, on mange de toutes sortes de fruits, mais il faut essayer de manger de ces 7 fruits. C'est bien. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle la terre d'Israël. Toute cette date de Tu Bishvat a été fixée d'après la terre d'Israël. C'est en terre d'Israël que la sève monte à cette époque-là. Mais en France ou en Russie, c'est tout à fait une autre époque. En Russie maintenant, au Canada, c'est encore les 3 mètres de neige, d'accord? On n'a rien à faire de ce qui se passe là-bas. Ou en Tunisie, c'est encore le soleil, je ne sais pas moi, d'accord? On parle de terre d'Israël. Cette terre est une terre sainte. Et c'est le moment, Tu Bishvat, de parler un peu de la sainteté de notre terre extraordinaire. Comment on voit qu'elle est sainte? D'abord, elle nous appartient parce que Dieu nous l'a donnée. Contrairement à tous les autres peuples qui ont conquis leur terre, nous, d'après les textes en tout cas, que c'est le premier commentaire de Rashi sur la Torah, pourquoi est-ce que la Torah demande Rashi? Pourquoi est-ce que la Torah débute-t-elle à la création du monde? Peu importe. La Torah, c'est un livre d'enseignement qui me dit qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, les mitzvot. Que la Torah aurait dû débuter à cette parasha qu'on a lu ce Shabbat, parasha de Bo, où c'est marqué ce mois, le premier des mois de l'année, la première mitzvah que le peuple d'Israël a reçue. Pourquoi est-ce que la Torah relate-t-elle l'histoire du monde? Qui ça intéresse? C'est pas de la Torah, c'est de l'histoire. Tu aurais dû mettre 2 bouquins, un bouquin d'histoire, un bouquin de Torah. Pourquoi tu mets ça dans la Torah? Dit Rashi. Parce que viendront les peuples un jour et diront que vous êtes une bande de voleurs, vous avez volé une terre qui n'est pas la vôtre. Alors c'est vrai que si maintenant je ne crois pas à la Torah, j'ai un problème. Je peux le dire, je ne suis pas plus voleur que vous. Les Français, c'est des voleurs aussi, parce que c'est la terre appartenait aux Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, qui ne sont pas nos ancêtres, parce que ce sont en fait les Francs, qui sont des barbares indo-européens qui sont venus et qui ont conquis la terre des Gaulois. Donc les Francs rendaient la terre aux Gaulois. Idem, n'importe quel Américain, d'accord, etc. Toutes les terres sont des terres conquises. Nous, alors, ou bien on sera comme eux, mais on ne veut pas être comme eux, on veut être mieux qu'eux. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, nous, notre terre, c'est Dieu qui nous l'a donnée. C'est-à-dire qu'en fait, que quelqu'un qui croit à la Torah, il a une légitimation plus que d'autres nations. De dire, cette terre-là, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Il a laissé les peuples autochtones qui étaient là-bas, on parle des 7 peuples qu'il y avait il y a 3000 ans, 3200 ans à l'époque de Yoshua Ben Nun. Un beau jour, il leur a dit, dégagez. Et ceux qui n'ont pas voulu dégager, alors ont été évacués de force, et c'est les Juifs avec Yoshua qui ont hérité de cette terre. Cette terre nous appartient. Cette terre qui est promise. Promise par qui et à qui? Promise par Dieu à Avraham Avinu. Lors de Brit Hamilaptarim, l'alliance des morceaux, d'accord, Dieu a ordonné à Avraham de faire la Brit Mila. Il lui a dit, je donne en contrepartie la terre d'Israël. Ce que nous avons une mitzvah, grâce à laquelle on a droit à cette terre qui s'appelle la Brit Mila. Et lorsque Yoshua Ben Nun est venu avec le peuple d'Israël pour conquérir la terre, il leur a fait tous à la Brit Mila. Parce que pendant les 40 ans dans le désert, vu qu'on ne savait pas quand on se déplaçait, oui ou non, donc les Juifs n'ont pas fait la Brit Mila dans le désert pendant 40 ans, or il est impossible d'hériter la terre d'Israël sans Brit Mila. Parce que la condition sine qua non de cette terre, c'est la Brit Mila. Chose stupéfiante, c'est que cette terre reconnaît ses propriétaires. Pendant plus de 1000 ans, de présence juive sur cette terre est une terre, mamash comme c'est marqué dans la Torah, Eretz Zavat Chalavot Vashukul, le lait et le miel. Le bétail mange de l'herbe grasse qui donne un bon lait, qui se mélange avec le miel, pas d'Isabelle, le miel qui coule des dattes et des figues, et on a carrément une terre abondante. Le peuple d'Israël quitte sa terre. Et les malédictions, on va partir en exil. Cette malédiction est parlée et mentionnée dans deux fois, dans le Deutéronome 28 et dans Berchotai, Lévitique, Vaïkra 26. Berchotai. Et là-bas, c'est marqué dans les malédictions une chose terrible. C'est marqué une chose terriblement fantastique, bonne pour nous. C'est marqué Veshamemu alea oivechem. Les ennemis qui vont l'occuper seront Shamemu, pourront pas en profiter. Ne pourront pas profiter de la terre. Shamama signifie désertique. La terre va devenir désertique pour vos ennemis. Alors quand on lit ça de façon superficielle, bon, alors ça fait partie des malédictions que la terre qui était si bonne va devenir désertique. Nous disent, Chazal, il y a 2000 ans, le Sifra, et le Ramban rappelle cela aussi, Nachmanide, il dit, c'est une bénédiction dans la malédiction. Que dire? Regarde. Bien que Dieu nous a mis hors de nos terres en exil, cette terre maintenant va refuser ses occupants ennemis, qui ne sont pas les vrais occupants, c'est nous, Am Israël. Comment? Elle refuse de donner ses fruits obstinément. Et tu vois que pendant 2000 ans, que le peuple d'Israël a quitté sa terre, cette terre, elle va être complètement vide, un désert aride. Un grand écrivain du siècle dernier, Mark Twain, américain, qui est un grand philosémite, est venu sur la terre d'Israël, et il écrit. Il est parti au Galil, et il dit, c'est inimaginable de croire qu'un jour, cette terre était habitée. Flavius Joseph, il écrit que dans le Galil, à l'époque, il y a 2000 ans, le village le plus petit faisait 15 000 habitants. Partout, tu avais des jardins potagers, de l'agriculture, c'était riche.
Les musulmans sont
circoncis. Très bonne question. Qui pose cette question? Le Zohar, Parashat Vaera, page 32b. On va en parler tout de suite. 32a. On va en parler tout de suite. Cette terre, en tout cas, elle reste complètement... Je ne parle pas maintenant musulman, pas musulman. Je parle maintenant, cette terre reconnaît ses habitants. Le peuple juif est sur terre. Elle donne ses fruits. Les juifs quittent cette terre, que ce soit les Romains, les Byzantins, les Mamelucs, les Turcs ou les musulmans, qui que ce soit, refusent obstinément de donner ses fruits. Un point tel. Rabbi Abba, dans le Talmud, traité Sanhedrin, page 98, dit « Tu n'as pas de signe plus clair de la fin que ce verset. » C'est un verset dans Yeheskel 36 qui dit « Et vous, terre d'Israël, vous donnerez vos fruits, vous porterez vos arbres et vos fruits pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. » Dit Rabbi Abba, lorsque la terre d'Israël va redonner ses fruits, ce sera le signe le plus clair que nous sommes proches de l'époque messianique, du retour des Juifs en terre d'Israël. Et les goïms ont appelé cela le miracle agricole israélien. Comment d'un désert on a fait un jardin potager extraordinaire? Aujourd'hui on exporte dans le monde entier des bons fruits qui ont un bon goût. Prends une tomate juive, elle a un bon goût. Prends une tomate suédoise, elle est belle rouge, tu manges dedans, on dirait de la farine, d'accord? Je ne vais pas faire trop de sionisme à outrance, mais quand même. On exporte. Cette terre donne ses fruits, c'est extraordinaire. Deux questions se posent. Celle de Thierry. Si tu me dis maintenant que cette terre appartient à ceux qui sont circoncis, alors pourquoi pas les musulmans? Alors je te réponds tout de suite, c'est faux. Cette terre n'appartient pas à ceux qui sont circoncis. Cette terre appartient au peuple d'Israël. En contrepartie de la mitzvah de Brit Mila. Mais elle appartient au peuple d'Israël. C'est marqué clairement dans la Torah. Deuxième question. Je reviendrai à cette question-là. Deuxième question. Comment se fait-il que ce grand miracle agricole israélien a été réalisé par qui? On serait imaginé, je suis un juif il y a 1000 ans, il y a 500 ans, je vois dans les textes, c'est marqué qu'à la fin des temps, Dieu va repeupler la terre d'Israël, va redonner ses fruits, c'est l'époque pré-messianique, extraordinaire. On s'imagine qui? Des longues barbes, des péotes, des tzadikis, ils vont travailler la terre d'Israël, donner ses fruits. Qui il y a? Nikim ou Snikim, socialiste, athée, même pas circoncis, ils mangent du lapin et à l'époque, même pas circoncis, ils mangent du lapin et du porc, et c'est eux qui vont faire cette mitzvah. Je ne parle pas méchamment, ils ont une mitzvah, ils ont certainement un grand mérite là-dedans. Mais c'est quand même assez stupéfiant de voir que ceux qui vont réaliser la grande prophétie de retour entier d'Israël, des gens laïcs. Bizarre. Aïe, 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 c'est marqué noir sur blanc dans les prophéties, Zacharie, chapitre 9. Vegam at bedam briter. Vegam at bedam briter. Shilachti asiraich mibor en maimbo. Et toi, en vertu du sang de ton alliance, je sortirai tes captifs du trou dans lequel il n'y a pas d'eau. Opaque. Ce verset veut dire quoi? Ramban Nachman, il y a 800 ans, commente et dit « Et toi, en vertu du sang de l'Alliance, le verset parle de l'époque pré-messianique avant que le Mashiach viendra. Le peuple d'Israël aura oublié la Torah, comparée à l'eau. Toi, en vertu du sang de l'Alliance. Alors j'ai dit auparavant que vous, c'est qui ne faisait pas la Brit Mila. Tu as regardé, tu m'as regardé bizarrement. T'as raison. Parce qu'il y en a qui ne faisaient pas, mais la grande majorité, malgré tout, la faisait. Comment ça se fait? Ils sont laïcs. Bizarre. Bizarre. Tu manges du porc. Tu manges du lapin. Tu te moques de la Torah. Tu fais la Brit Mila. Mais c'est un acte barbare. Un petit gosse de 8 jours t'amène un rabbin pouilleux, entre guillemets. C'est comment on fait la Brit Mila? On coupe la grande une membrane épaisse qui se rétracte à l'arrière, apparaît le membre avec une membrane fine. Le Moël, le rabbin qui a ses ongles aiguisés et un peu noirs, parce que très souvent il fait ça, donc il y a plein de sang, d'accord, rentre ses ongles entre la membrane et le membre et déchire la membrane en arrière. Après, il prend un peu de vin qu'il mélange avec sa salive et il suce le membre du petit gosse. Normalement, le gosse finit à l'hôpital. Hein, avec un truc pareil, c'est au niveau aseptique, hein, c'est pas très bien stérilisé. La salive du rabbin pouilleux avec le vin du badatz. Un peu doux, c'est du sirop. Et pendant, il survit. Tinkibousnik, laïque, attend 2-3 mois à l'hôpital, avec un professeur, un chirurgien qui fait comme il faut, anesthésie générale ou anesthésie locale, bien comme il faut. Non! Les juifs, les plus loin d'un... Il y en a qui ne font pas la Brit Mila, mais tu regardes que la mitzvah que les juifs quittent en premier, quittent en dernier, celle de Brit Mila. C'est assez stupéfiant. C'est marqué dans le Talmud, le traité Shabbat, page 130. Les mitzvot pour lesquels le peuple d'Israël était prêt à donner sa vie, alors il la garde encore. Cette mitzvah de Brit Mila, très souvent les juifs ont été prêts à se sacrifier pour faire cette mitzvah de Brit Mila. Là-bas, la Torah donne un autre exemple, le Talmud, de mitzvah de Tfilin, qu'ils n'étaient pas prêts à mourir pour la mitzvah de Tfilin. Alors, très peu de juifs, beaucoup de juifs, quittent la mitzvah de Tfilin assez rapidement. Mais néanmoins, celle de Brit Mila, c'est la plus dure à quitter. Pourquoi? C'est pas la Brit Mila qui rend juif. Des gens, ils croient que, heureusement qu'ils croient ça, mais c'est faux. D'accord? C'est pas la Brit Mila qui rend juif. Un juif qui a pas fait la Brit Mila, il est juif. Un non-juif qui a fait la Brit Mila, il est pas juif. Ça n'a rien à voir. Rien, strictement rien à voir. Néanmoins, les gens font cette mitzvah parce que, je ne sais pas pourquoi, alors que du point de vue logique, rationnel, c'est complètement barbare. Barbare! Tu me diras, oui, aujourd'hui, on a vu qu'il y a beaucoup moins de sida. Ok, qui savait ça il y a 30 ans? Et fais-le à l'hôpital, je dis de nouveau, à l'âge de 3 mois, comme il faut, avec anesthésie et médecin. Nous dit le Ramban, d'après il commande la prophétie de Zacharie il y a 2500 ans. À l'époque, prémissionnique, il y aura une génération qui aura oublié la Torah, c'est le puits dans lequel il n'y a pas d'eau, le puits, c'est le puits de l'exil dans le trou. Moi, en vertu du sang de l'Alliance, que tu fais la Brit Mila, je sortirai tes captifs qui sont dans l'exil, captifs dans l'exil, du puits où il n'y a pas d'eau, ils n'auront pas de Torah, mais néanmoins, ils ont le sang de l'Alliance, la Brit Mila, grâce à cela, ils reviendront en terre d'Israël. Quelle portion du peuple aura la chance de faire cette grande mitzvah d'assécher les marécages, d'irriguer le désert, la partie du peuple juif qui n'est pas très haute au niveau spirituel, alors on donne quand même, Dieu les aime bien, leur donne un cadeau, c'est eux qui vont faire cette grande mitzvah de replantation et fructification de la terre d'Israël. Demande Zohar, page Vaera, page 32a, Shemot. Et Ishmaël, lui aussi, il a fait la Brit Mila. Pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas droit à la terre? Demande l'ange d'Ishmaël à Dieu. Dieu donne deux réponses. Première, ils font la Brit Mila, mais pas aussi rapidement que les Juifs. Pas à l'âge de 8 jours, ils attendent. À l'époque, ils attendaient que le fils aîné, il ait 13 ans, comme Ishmaël, lui-même, le fils d'Abraham, il fait ça à l'âge de 13 ans, et ils font tous les mâles. Ça faisait beaucoup d'accidents, parce qu'à l'âge de 13 ans, ils s'amusent dans le préau, hop, c'est un coup de genou où il ne faut pas, ça faisait beaucoup d'accidents, donc aujourd'hui, ils le font aussi beaucoup plus tôt, mais quand même pas à l'âge de 8 jours. Quand un bon jour, ça leur prend, hop, ils le font. Première réponse. Donc, ils attendent longtemps. Or, nous, la mitzvah de Zrizim, Makmel Mitzvah, il y a une mitzvah de la Brit Mila le plus rapidement possible, même le 8e jour, le faire encore le matin, qui n'est pas avant le midi juste, environ, ça dépend, au moment où le soleil se trouve au sommet de sa course, et si possible, très tôt le matin. Première chose. Deuxièmement, la halakha dit mal velo para qui ilou lo mal. Si tu as fait la première opération, tu as enlevé la membrane qui est épaisse, mais tu as fait la deuxième où on met les ongles et on retourne celle qui est fine, c'est comme si tu n'as pas fait la première, tu n'as rien fait du tout. Or, les musulmans ne font plus cette deuxième opération, ils ne la font pas. Donc pour eux, par rapport à nous, la mitzvah de Brit Mila est nulle et non avenue. Lorsque Ishmael revient à la charge, ok, alors ils font ni en temps, ni comme il faut, mais ils font quelque chose. Et pour toi, Dieu, le Dieu des musulmans, c'est le Dieu des juifs, Allah, le Dieu d'Abraham, Allah, c'est elle en hébreu, le nom de Dieu, qui est unique, uniforme, pas de, enfin uniforme, unique, sans forme, infini, éternel, le même Dieu que nous. Et ils font pour toi. Et toi, tu es un Dieu juste. Et ça fait mal, la Brit Mila. Alors, ils n'ont pas droit à quelque chose. Dit le Zohar, ils ont droit. Quoi? Dieu veut pas que l'Ishmaélite soit le peuple d'Israël. Israël, c'est Israël. Nous sommes branchés avec intimement avec la divinité et nous, exclusivement nous. Mais eux ont quand même un mérite. Alors Dieu va donner dans ce monde, pas dans le monde de la réalité spirituelle, dans le monde matériel, va donner aussi un mérite aux Ishmaël. Quoi? La terre d'Israël. Ça appartient à nous aussi. Quand Béné Israël, dit les Zohar, vont quitter leur terre en exil, qui viendra? Et uniquement qui? Ceux qui sont circoncis. Et on voit que toute tentative d'occupation de la terre d'Israël par un peuple non circoncis a échoué. Les croisés, ont fait beaucoup de croisades, et ils n'ont pas réussi à tenir longtemps. Il y a un petit royaume de Jérusalem qui a tenu quelques années comme ça. La place forte des croisés, c'était où? Saint Jean d'Acre. Akko, le Talmud de Guitine, la première page de Guitine donne les limites de la terre d'Israël. Il dit sur la côte au nord, la limite de la terre d'Israël, c'est Akko. Ça veut dire que là-bas, tu as un ange douanier. Comment ils vérifient l'identité des occupants, des passagers qui viennent là-bas? Ils leur baissent la culotte. T'es circoncis en tant que peuple, en tant que quelqu'un de non circoncis, en tant que privé, il peut passer. Mais en tant que peuple conquérant, t'es circoncis, tu passes, t'es pas circoncis, tu passes pas. Et comme ça pendant 2000 ans. Rajoute le Zohar. Mais vu que Ishmaël font maintenant un acte qui est vide de sens, parce qu'il n'y a pas de branchement intime avec Dieu. Brit signifie une alliance, non alliée avec Dieu. On fait sa Torah, on est son peuple, on souffre pour lui. Eux pas. Alors de même que leur Brit est vide de sens, la terre va rester vide de contenu. C'est pour ça que la terre va rester vide. Revient le peuple d'Israël, même les non-religieux qui font un Brit Mila, elle redonne ses fruits. Donc on a une terre sainte qui reconnaît ses occupants. Et bien, maintenant, la terre est construite, il faut maintenant faire descendre l'esprit. Et bien, on aura bientôt le Biat Mashiach, Bimar Emmanuel Amen.